garçon, tu ne prends pas de notes ce matin?
Ah, oui, mais c'est moi.
Ah, mon petit, je ne te dis que ça.
Salut à toi, jeune ou moins jeune, sur Radio Panique. J'espère que tu passes le mercredi après-midi le plus cool qui soit entre sport, devoirs, télé et musique. Aujourd'hui, c'est l'émission des jeunes radioactifs de 17 à 18 heures. Au micro, Aurélie.
Fabrice.
Exactement.
Fabrice, mes jeunes radioactifs, c'est quoi ?
C'est une émission participative par excellence.
On parle de quoi ici ?
De sujets sérieux comme l'école, le travail, le stage, la famille, mais des sujets qui nous parlent et nous concernent. Car on va aussi parler de nos droits et de nos devoirs. On vous promet, on ne sera pas casse-pieds.
Mais à part nous, qui participe aux jeunes radioactifs ?
Ben les jeunes, petits et grands.
Et pour qui ?
Les jeunes encore, grands et petits, malins ou pas, bruxellois ou non, on accepte quand même des gens comme toi.
Qui d'autre pour faire notre belle émission ?
Radio Panique, bien sûr, sur 105.4 et les associations du secteur de la jeunesse comme InfoJeune Laeken, que nous remercions au passage. Dans tous les cas, toi qui nous écoutes, si tu veux nous aider dans notre projet, contacte Aurore à InfoJeune Laeken au 02 421 71 30.
Fabrice, comment va se passer notre nouvelle saison ?
On fait une émission par mois, on fait presque toujours du direct tous les 4 mercredis du mois. On aura nos experts d'InfoJeune Laeken et nos invités, bien sûr, pour nous éclairer. On fera parfois des micro-trottoirs ou des reportages, on verra comment on se débrouille.
Et pour aujourd'hui, on se met quoi sous la dent ?
Alors, à l'écoute de la différence de l'enseignement spécialisé pour l'inclusion et l'épanouissement. Bienvenue à l'écoute de la différence, je viens déjà de le dire, pardon, dans cette émission spéciale nous allons plonger au cœur de l'enseignement spécialisé en expliquant ce que c'est, pour qui il existe, tout en discutant des défis et des dérives que ce domaine peut parfois rencontrer. Aujourd'hui nous sommes honorés d'accueillir Jean-Pierre Kounen, président de la Ligue des droits de l'enfant, une organisation qui œuvre pour la défense des droits des enfants et des jeunes dans le domaine de l'éducation. Avec lui, nous allons explorer les enjeux liés à l'enseignement spécialisé, ses réalisations et les défis auxquels il est confronté afin de mieux comprendre comment nous pouvons travailler ensemble pour améliorer l'inclusion et l'épanouissement des apprenants ayant des besoins particuliers. Préparez-vous pour une discussion enrichissante et informative sur l'enseignement spécialisé et son rôle dans notre société. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Fabrice.
On revient après « Je m'appelle Lou » de Lou Bolland.
Lou, je m'appelle Lou. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le bras. Lou, je m'appelle Lou. Voyez, je suis fait comme vous. Si ce n'est, je vous l'avoue, que dans mon trou je traîne beaucoup. Oui, j'ai peur du malheur, tort peur d'un monde en fureur. La gestion de mes émotions, à chaque tension, je fais le hérisson. Je sais, la vie est relou, elle nous fout des coups de bonbons, nous entaille, dresse des murailles, nos rêves s'écaillent, quelle bataille. Je lutte contre mes tics, mes tocs et toutes leurs cliques, certains me disent autistes, mais j'y peux rien si j'aime tant la musique. Je kiffe les harmoniques, les notes mélodiques. Quelque part, je suis un artiste, la zik et moi, c'est magique. Moi, mais censé louer, toucher. Qu'on vous interdit pas d'odorat, un goût réduit, ça me donne quand même souvent bien du souci. Ainsi est faite ma vie, je ris, je pleure, je crie, parfois je manque de courage quand il faut tourner la page. Papa, maman me disent que personne fait à sa guise, que l'amour rend bien plus fort. C'est vrai que la tendresse est ce que j'adore. J'ai besoin de gros câlins qu'on m'aide, qu'on me tende la main, que l'on rit. C'est ce que je kiffe pour vivre dans le positif. Lou, je m'appelle Lou. Dites-moi, ne suis-je pas comme vous à chacun? C'est péril, pour chacun la vie est difficile. On a tous nos souffrances, nos peurs, nos espérances, nos fractures et nos blessures, et notre peur du futur. Vous, je m'adresse à vous, dites-moi, est-ce donc si qu'il y a toujours pire, qu'il faut sourire même au dernier soupir. Vous, je m'adresse à vous, il faut nous tenir debout et sans fin se tendre la main, oser se faire des câlins. Lou, je m'appelle Lou. Voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, j'ai mon piano, ma canne et le braille.
C'était Je m'appelle Lou de Lou Bolland. Lou Bolland qui avait participé à la saison 9 de The Voice et donc qui est atteint d'autisme et qui a également un trouble de la vue. Voilà, donc toujours sur Radio Panique pour notre émission à l'écoute de la différence, l'enseignement ordinaire pour l'inclusion et l'épanouissement. Dans cette première partie de l'émission, chaque invité prendra le temps de vous présenter son organisation, enfin notre invité, vu qu'il est tout seul, et de nous éclairer sur la manière dont elle contribue à l'inclusion et à l'épanouissement des enfants ayant des besoins spécifiques au sein d'une école ordinaire. Jean-Pierre, tu es donc le président de la Ligue des droits de l'enfant. Peux-tu nous présenter brièvement ton ASBL et sa mission dans le contexte de l'éducation inclusive ?
La Ligue des droits de l'enfant est déjà une association qui a quelques années. On va fêter les 30 ans. Le 9 novembre prochain, on fêtera nos 30 ans. Et donc, on est actif, évidemment, dans le domaine de tous les droits de l'enfant. Donc, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant reprend tous les droits. Et donc, en principe, nous sommes habilités à traiter chaque problème. Seulement, dans notre pays... si les enfants sont quand même mieux traités que dans d'autres pays, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, puisqu'ils ont droit de soins, etc. Néanmoins, il y a bien un lieu où les droits de l'enfant sont extrêmement peu respectés, c'est l'école. Et donc, on est évidemment fort actifs dans le domaine scolaire, notamment pour tous les élèves qui sont en échec, mais aussi pour tous ceux qui ne parviennent pas à être inscrits dans une école ordinaire, tout simplement parce qu'ils ont une différence. Alors ça s'appelle être en situation de handicap. Et donc il y a deux types d'enseignement dans notre société. On parlait ici d'enseignement spécialisé et d'enseignement ordinaire. C'est clair qu'on ne sait pas avoir deux types d'enseignement si on veut une école inclusive. Si on veut une société inclusive, on ne peut pas faire de ségrégation. Et notre système scolaire pratique la ségrégation. Il y a une partie de l'enseignement qui est pour des enfants en situation de handicap en tout cas, que l'école ordinaire n'accueille pas. Et puis il y a tous les autres enfants qui vont dans l'école qu'on connaît habituellement, donc ce qu'on appelle l'école ordinaire. Voilà, sinon on est actif dans tout un tas d'autres domaines, notamment au niveau de l'école, on se bat aussi pour l'inclusion des enfants LGBTQIA+, par exemple, les familles homoparentales. On se bat aussi au niveau de la justice pour les enfants qui parfois sont placés lors de divorces de leurs parents, de séparation des parents. La justice ne tient pas toujours compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, on essaye de toucher à tout un tas de choses, mais nous sommes tous bénévoles. Donc moi, j'étais instituteur pendant 44 ans. Je connais un petit peu le monde de l'école grâce à ça. Et voilà, il n'y a que des bénévoles. Donc dès qu'on lance un combat, si on ne trouve pas des gens pour le porter, on ne sait pas le lancer. Nous ne sommes pas une grosse association, on n'est pas financé du tout, on n'a pas un centime au bout du mois et au bout de l'année non plus. Donc on fait des colloques justement sur l'école inclusive pour essayer de promouvoir l'école inclusive. Et ces colloques, heureusement, d'un autre côté, nous rapportent des entrées, un peu d'argent qui nous permet de payer le loyer, Internet et tout ce qu'a besoin une association pour vivre.
Et justement, donc tu parles de colloques que vous organisez pour l'inclusion. Si tu peux nous en dire peut-être un peu plus, et en quoi ton association justement se démarque à ce niveau-là pour l'inclusion des jeunes avec des besoins spécifiques.
Mais je pense que nous sommes l'association qui a lancé le premier le débat sur l'inclusion. D'abord, c'était l'intégration. Hein. On a une plateforme pour une école inclusive qu'on a créée en 2001. Donc elle a 22 ans, et au départ c'était essentiellement pour l'intégration des enfants malades chroniques ou handicapés à l'école, parce que certains enfants avec des maladies chroniques étaient refusés dans les écoles, notamment les enfants diabétiques par exemple, parce qu'il fallait leur faire des piqûres régulièrement et des écoles refusaient de les prendre, ou de leur permettre de venir en classe de mer ou en classe verte. Donc on s'est déjà battu pour l'inclusion des enfants, pour l'intégration à l'époque des enfants malades, ce qui était assez rapide, parce que les écoles se sont bien vite rendues compte que les maladies, on pouvait les traiter même à l'école. Par contre, le handicap reste difficile. Et donc, certains enfants, excusez-moi les guillemets, mais j'en mets tout le temps, il y a les bons handicaps et puis il y a les mauvais handicaps. Le bon handicap, il y a des guillemets autour de bon, évidemment, et de mauvais. Mais le bon handicap, c'est celui que l'école accepte, c'est-à-dire où il n'y a pas de déficit intellectuel. Donc la personne a un handicap essentiellement physique, peut suivre des cours tout à fait normalement, en mettant en place quelques aménagements raisonnables. Si l'enfant a difficile à se déplacer, a besoin d'une chaise roulante, on mettra la classe au rez-de-chaussée ou il y a un ascenseur qui lui permettra d'aller à l'étage. Même chose pour les enfants malvoyants ou malentendants. On met des aménagements raisonnables en place. Par contre, dès qu'on a une déficience intellectuelle, alors là, l'école ferme ses portes. Et l'école n'est pas inclusive à ce niveau-là. Et donc, handicap intellectuel ou comportemental. Hein, on parlait d'autisme tout à l'heure, hein, on a entendu Lou Bolland. Lui, il a un autisme, on va dire, de haut niveau, mais il y a des enfants qui ont des autismes plus compliqués. Des enfants qui sont non-verbaux, par exemple, qui vont réagir uniquement par des cris, par bouger, ne pas rester assis. Simplement, l'autisme, c'est un handicap difficile pour certains enfants, puisqu'en fait, c'est un problème de communication. Hein, ils ne comprennent pas comment on communique avec eux, comment ce que même leurs parents, parfois, essayent de leur faire comprendre, etc. Et quand ils sont angoissés, évidemment, ils réagissent de manière violente. Violente ou en criant, enfin bon, en se faisant beaucoup remarquer. Là, les écoles disent « Ah non, 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 on ne sait pas gérer ça. Ah, il faut le mettre dans le spécialisé. » Comme si le spécialisé, lui, avait toutes les clés. Donc, notre plateforme pour une école inclusive a évolué avec le temps, puisque en 2009, on a réussi à changer le décret de 2004 de manière à ce que tous les élèves, quel que soit leur handicap, puissent être intégrés dans une école. On parle bien d'intégration à ce moment-là. Et donc, ils pouvaient rentrer dans une école ordinaire, si l'école ordinaire voulait bien d'eux, avec l'aide de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire que chaque enfant était accompagné pendant 4 heures dans sa classe avec un enseignant qui est spécialiste et qui donc, contrairement à ce qu'on pense à l'époque, n'allait pas rester à côté de l'enfant pour aider pendant 4 heures. Non, non, il est là pour aider l'enseignant à gérer l'enfant, à voir comment l'enfant évolue en classe et ce qu'on peut mettre en place pour l'aider à progresser. Et donc, dans certaines écoles, on rassemblait 6 élèves dans une classe de primaire, et cette classe bénéficiait de 6 fois 4 heures d'accompagnement de l'enseignement spécialisé. C'était l'intégration. Donc, on a pu faire entrer des enfants dans l'enseignement ordinaire grâce à l'aide du spécialisé. Ça a duré quelques années, ça a duré jusqu'en 2020, où là, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est rendue compte que, contrairement à ce qu'ils pensaient, il n'y avait pas moins d'enfants qui allaient dans le spécialisé. Donc tous ceux qui étaient en intégration, parce que je crois qu'il y avait quand même 1700, 1800 élèves en intégration, eh bien, ça ne diminuait pas du tout le nombre d'élèves qu'il y avait dans le spécialisé. Au contraire, le spécialisé continuait à augmenter. Il est arrivé à 38 000 élèves, et ça, c'était hors de prix pour une fédération Wallonie-Bruxelles désargentée. Donc, ils ont supprimé l'intégration temporaire totale, et tous ces enfants qui bénéficiaient d'intégration dans l'enseignement ordinaire, eh bien, dorénavant, ils devront aller dans le spécialisé, en espérant qu'après un an ou deux, l'école spécialisée les réintégrera dans l'ordinaire. Ce n'est pas gagné d'avance parce qu'il y a des écoles d'enseignants spécialisés qui refusent l'intégration. Et il faut voir aussi s'il y a des écoles d'enseignement ordinaire qui vont accepter un enfant avec un handicap intellectuel en n'ayant plus que 4 heures d'accompagnement du spécialisé, des heures qui vont en diminution. Maintenant, je crois qu'on n'a plus qu'à 3 heures. Cette année-ci, ça va encore diminuer. Donc voilà, la communauté française devient de moins en moins inclusive. Elle a été condamnée d'ailleurs par le Conseil de l'Europe, hein, tout simplement parce que de nombreux enfants ne pouvaient pas rentrer dans l'enseignement ordinaire, qui est leur place. Mmh. Et donc nous autres, à la Ligue des droits de l'enfant, on a rédigé un mémorandum qu'on va d'ailleurs présenter aux politiques pour les prochaines élections, et notre souhait, c'est fusionner l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé. Car dans le spécialisé, il y a des spécialistes, et dans l'ordinaire, il y a peu de spécialistes. Si chaque école peut avoir quelques enseignants spécialisés qui viennent dans les classes accompagner leurs collègues de l'ordinaire, de façon à les spécialiser progressivement, pour accueillir tous les enfants, je crois que c'est la solution idéale pour que notre société évolue vers plus d'inclusion. Il faut savoir que les enfants qui sont aujourd'hui dans l'enseignement, qu'ils soient ordinaires ou spécialisés, sont les adultes de demain. Alors si on n'a pas appris à vivre avec la différence quand on était enfant, quand on était jeune, quand on sera adulte, on ne voudra pas voir la différence non plus. On ne voudra pas l'inclure dans la société. Et donc actuellement, l'école n'est pas inclusive. Il y a des écoles qui sont inclusives, mais de moins en moins. Celles qui l'étaient vraiment, je pense à certaines écoles qui incluaient d'ailleurs des enfants avec déficience intellectuelle, comme ils n'ont plus l'aide des spécialisés, ne savent plus le faire. Alors des écoles réellement inclusives en Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense qu'il ne doit plus y en avoir beaucoup.
D'accord. Donc, quelques buts atteints finalement par ton ASBL, mais le chemin paraît encore très long.
Ben, je pense que c'est... Oui, on pensait avoir gagné, mais il faut savoir que le spécialisé est considéré par l'enseignement ordinaire comme étant la remédiation de l'ordinaire. Donc, quand un enfant a des difficultés, ne sait pas suivre un cours, il a trop de difficultés en maths ou en français, enfin, peu importe, il n'a pas de bon point, comme on dit, hein, ça ne va pas du tout. S'il vient du milieu populaire, par exemple, si les parents ne parlent pas la langue, ou si lui-même est un peu difficile, si les parents n'ont pas les codes de l'école, etc., rapidement, on va proposer une orientation vers le spécialisé, alors que ces enfants n'ont aucun handicap. Oui, il ne parle pas la langue de l'école, peut-être. Hein. Moi, j'ai suivi là un enfant, il parle deux langues, il parle le tchétchène, il parle le russe, mais il ne parle pas le français de l'école. Alors, l'école veut l'envoyer dans le spécialisé. Alors qu'il sait parler, il est bilingue, ce gosse. Même chose pour un autre enfant qui parle anglais et arabe. Donc, ce sont des cas qui nous sont présentés. Donc, il faut intervenir dans les écoles en leur disant, dites les copains, il y a peut-être des choses à mettre en place. Cet enfant sait parler deux langues, je ne vois pas pourquoi il n'apprendrait pas un jour le français. Hein? Alors, les parents, eux, ne possèdent pas la langue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le PMS qui va conseiller une orientation vers le spécialisé. Et on va vendre le spécialisé. Ça se vend, le spécialisé. Hein, on va dire, mais oui, mais vous savez, ils avancent à leur rythme. Ce sont des petites classes. Ils sont 10 ou 12 dans les classes. Hein. Il y a le transport scolaire gratuit. Ah, c'est intéressant, transport scolaire gratuit, hein, vous avez des allocations familiales majorées. Ah, voilà, c'est vraiment, on vend le spécialisé, alors que, et on leur dit, mais le spécialisé, il vise aussi le CEB, hein, en fin de l'école primaire, et vos enfants rentrent au CEB. Ce qu'on ne sait pas, et les écoles ne le savent pas non plus, c'est que pour le type 8, il n'y a que 8% des élèves qui ont le CEB. Il reste quand même 62% des élèves qui ne l'auront jamais. Et donc ça, c'est... voilà. Et d'ailleurs, on ne va pas critiquer le spécialisé en disant ça. Ce n'est pas la faute du spécialisé. Quand on leur envoie des élèves qui ont 8 ans, 10 ans, qui ont déjà fait première, deuxième, primaire, peut-être la troisième, qui sont en échec total, ils restent au spécialisé 3 ans pour obtenir le CEB. Ils doivent déjà réparer le gosse qui est cassé, qui n'a plus confiance en lui, qui n'a... quasiment pas d'apprentissage ou qui ne possède pas les compétences. En 3 ans, c'est impossible. La faute ne relève pas du tout du spécialisé, relève de l'ordinaire qui n'est pas capable d'enseigner à tous les élèves.
Merci à toi. Au niveau d'exemple, peut-être du coup de réussite que ton ASBL aurait mis en place, est-ce que tu peux nous parler peut-être tu nous as déjà parlé de quelques trucs qui ont évolué quand même au niveau des décrets.
On a eu en 2009 un décret, on a eu la chance à l'époque que des membres de notre plateforme travaillent dans les cabinets des ministres de l'éducation de l'époque et qui nous ont aidés à mettre en place le décret de 2009, à modifier ce décret de façon à ce que tout parent qui souhaite que son enfant soit intégré dans l'ordinaire puisse être accompagné par le spécialisé. Ça continue, il y a toujours des élèves qui sont accompagnés par le spécialisé dans l'ordinaire, seulement ceux qui ont le plus difficile, ceux qui ont une déficience intellectuelle, ou comportemental, ceux-là, ils doivent être dirigés vers le spécialisé. Parce que qu'est-ce qu'on a mis à la place de l'accompagnement du spécialisé dans l'ordinaire ? On a créé des pôles territoriaux. Alors ces pôles territoriaux, ils ont une mission, c'est d'aider les enfants qui ont des besoins spécifiques, on va dire une dyslexie, une dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, enfin tout ça... mais qui n'ont pas de déficience intellectuelle, ceux-là, eh bien, ils pourront rester dans l'ordinaire avec l'aide des pôles territoriaux. Donc le pôle territorial a des spécialistes qui vont venir dans les classes, alors je ne sais pas combien d'heures par semaine, ça dépend un peu des difficultés de l'enfant, mais ils sont là pour former les enseignants de l'ordinaire à mettre en place les aménagements raisonnables auxquels les enfants à besoins spécifiques ont droit. Alors, pour être enfant à besoins spécifiques, il faut être détecté. Donc, on a été diagnostiqué. Un enfant avec une dyslexie doit être diagnostiqué par une logopède, par exemple. Sinon, il n'a pas droit aux aménagements raisonnables. Un enfant qui vient de milieu populaire, qui n'a aucun handicap, qui est dirigé vers, qui reste dans sa classe ordinaire et qui a de véritables difficultés, eh bien, le pôle territorial ne peut pas l'aider parce qu'il n'est pas diagnostiqué à besoins spécifiques. Et alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ceux qui ont une déficience intellectuelle ou comportementale, ceux-là ne viennent plus dans l'ordinaire parce que les pôles territoriaux ne sont pas faits pour eux.
D'accord. Merci Jean-Pierre. On revient après le collectif Ensemble pour la chanson Ensemble, les élèves du collège de Souffle-Name. Ils se sont lancés dans la création d'une chanson et d'un clip sur les différents handicaps visibles et invisibles rencontrés dans les milieux scolaires, les milieux sportifs et dans la société. Écoutons-les.
Je comprends pas les mimiques.
C'était Ensemble du collectif des élèves du collège de Souffleneim. Alors, toujours sur Radio Panique pour l'émission des jeunes radioactifs. Jean-Pierre, comment définis-tu les troubles de l'apprentissage et quelles sont leurs différentes formes ?
Des troubles spécifiques des apprentissages, il y en a un paquet. Le trouble spécifique de l'apprentissage, c'est en général un trouble qui nécessite des aménagements raisonnables, mais où l'élève peut rester dans l'ordinaire. Donc ce n'est pas un handicap. Par contre, ils sont en situation de handicap à l'école. Donc je prends l'exemple d'un enfant avec une dyscalculie. J'avais dans ma classe des enfants avec une dyscalculie. Ben, je savais qu'en troisième année, je peux leur apprendre les tables de multiplication. Il ne les connaissait pas et je sais que le jour de sa mort à 112 ans, il ne les connaîtra toujours pas. Donc il est dyscalculique, il est dyscalculique. Donc il avait droit à une calculette, il avait droit à tout un tas d'histoires. Et donc, quand il joue à la cour de récréation, il n'est pas du tout en situation de handicap. C'est quand il rentre dans ma classe qu'il est en situation de handicap. Et que je
dans
commence...
un cours précis en plus.
Oui, bien sûr. Hein, et donc en plus, il avait, celui dont je parle, il avait en plus une dyspraxie. Donc c'était souvent les deux vont ensemble. Et donc, ce sont des choses qui nécessitent plein d'aménagements raisonnables. Et le problème de cet enfant auquel je pense, c'est qu'en 3e, 4e année, quand moi j'avais, il avait, je crois, une dizaine, une quinzaine d'aménagements raisonnables. Même pas. Chez moi, dans ma classe, les aménagements, tout le monde les avait. Donc, ce petit garçon avait une calculette, mais tous les élèves avaient une calculette. Chacun utilisait la calculette en fonction de ses besoins. Il y en a qui n'utilisaient jamais la calculette parce qu'ils connaissaient, ils savaient calculer facilement. Hein, même chose pour le dictionnaire ou pour le RECA ou des choses comme ça pour l'orthographe. Et donc, je rendais les aménagements non pas raisonnables, mais universels. C'est-à-dire, tout le monde bénéficiait. Ceux qui avaient besoin de plus de temps, tout le monde avait besoin de plus de temps. Quand on avait droit du tutorat, tout le monde avait droit du tutorat. C'est-à-dire, dans ma classe, le tutorat était obligatoire. Tout le monde donnait du tutorat à tout le monde. Et donc, on ne laissait jamais quelqu'un en plan. Et toutes les difficultés, quelles qu'elles soient, je pouvais avoir des enfants qui avaient quelques difficultés que ce soit, il y avait plein d'aménagements dans la classe qui permettaient à ces élèves, simplement, d'accéder à l'école et d'être en classe. Il ne fallait rien ajouter de plus. Souvent, les logopèdes ou les neuropédiatres me disaient « Je ne vois pas très bien ce que vous pourriez mettre en plus pour tel élève que je viens de vous envoyer. » Et donc, c'est ça qui permet justement d'effacer la situation de handicap, ces aménagements raisonnables. Ils resteront dyslexiques, ils resteront dyspraxiques, ils resteront toute leur vie. Une difficulté spécifique d'apprentissage, c'est à vie. C'est à vie. C'est comme la personne qui naît avec des oreilles trop grandes ou une petite taille, des choses comme ça. Donc, c'est à vie, mais en classe, il faut surtout éviter qu'il soit en situation de handicap parce qu'on met des choses en place justement pour qu'il ne l'ait pas. Et le petit garçon dont je parle, il est passé en cinquième année. Et moi, avec les parents de mes élèves, je travaillais tout le temps sur WhatsApp. On avait des groupes WhatsApp. Histoire que, comme ça, quand ils avaient une question à poser, ils me la posaient tout de suite. Ça allait beaucoup plus vite que devoir attendre plusieurs jours pour rencontrer l'instituteur. Et il m'envoie un petit message sur WhatsApp. Il me dit « Ah, Monsieur Kounen, je veux plus d'aménagement raisonnable. » Je dis bah, « Pourquoi tu veux plus d'aménagement raisonnable? T'en as besoin. Tu en avais plein. Donc, pourquoi tu n'en veux plus ?»« Parce que je me fais stigmatiser par tous les autres élèves. Parce que j'ai une calculette, parce que j'ai plus de temps, parce que ceci. » Donc, il était dans une classe, il était passé dans une classe où les aménagements étaient raisonnables. Ils n'étaient pas du tout universels, n'avaient pas été rendus universels pour tout le monde. Et donc, on se moquait de lui. À la récréation, il se faisait chambrer, etc. Et il n'en voulait plus du tout d'aménagement raisonnable.
Alors que finalement, ça ne faisait qu'un peu rééquilibrer la balance.
En fait, quand quelqu'un voit mal, on lui met des lunettes. Hein.
Voilà.
Et personne ne va dire, pas question de qu'il ait des lunettes en glace quand même. Hein. Et donc, lui, ce n'est pas des lunettes qu'il a besoin, c'est une calculette, c'est du temps, c'est un soutien, c'est du tutorat. C'est, voilà, et tout ça doit... être mis de manière universelle dans la classe, de façon à ce que tout le monde en profite et qu'il n'y ait plus personne qui se sente stigmatisé.
Et on parle beaucoup du coup d'aménagement raisonnable, même si certains ont peut-être déjà plus ou moins compris de quoi il s'agissait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, en quoi ça consiste?
Ça dépend un peu de la difficulté spécifique d'apprentissage. Un enfant avec une dyslexie, mettons, moi je prends contact avec sa logopède. Et j'ai réfléchi ensemble à ce qu'il faut pour que cet enfant puisse évoluer en classe. Me dire, ben... Les fortes dyslexies, ça pourrait être avoir une tablette en classe avec un correcteur orthographique. Ou tout simplement un Eureka. Eureka, c'est un petit livre, enfin c'est un livre hein, avec l'orthographe des noms. Donc, pour pouvoir orthographier ou un dictionnaire. Et donc voilà, ça dépend vraiment... Un enfant avec une dyslexie, si je fais une dictée, eh bien lui, je vais demander à la logopède combien de mots il sait retenir. La dernière que j'avais contactée me dit bah, « cet enfant-là, il va retenir 5 plus ou moins 3 mots. » Ça veut dire entre 2 et 8.
Ah oui.
Et si je lui donne une dictée de 5 phrases, il ne va jamais savoir me faire la dictée de 5 phrases. Donc on va voir avec l'enfant les mots qu'il saura retenir. Hein, et comme de toute façon, on se préparait en classe, parce qu'il y a le tutorat à travers une équipe de coopération chez moi, donc tout le monde apprend avec tout le monde, on voit tout de suite les mots qui sont plus faciles pour l'enfant. Et donc, ce sont ces mots-là qui lui seront dictés lors de la dictée, alors que d'autres auront peut-être une demi-dictée parce que leur dyslexie est un peu plus faible. Si, hein, parce que dans une classe, on a souvent plusieurs dyslexiques. Hein, et donc, tandis que les autres, ils auront la dictée complète. Quoi. Donc, on adapte. Non seulement on adapte le temps, mais on adapte aussi les apprentissages en fonction des besoins de l'enfant. Et chaque enfant avec une dyslexie est différent. Et chaque enfant avec une dyslexie, une dyspraxie ou n'importe quelle situation de handicap a besoin d'aménagements raisonnables différents. Donc c'est à moi, c'est à l'école, donc l'instituteur de la classe, c'est à l'école à s'adapter, contrairement à l'intégration. L'intégration, c'est l'enfant qui vient et qui doit s'adapter à la classe. Il aura des aménagements raisonnables, il aura peut-être un peu l'aide du spécialisé, mais c'est lui qui doit faire l'effort. Et donc, on considère qu'il est en situation de maladie. Hein, quelque part, il doit être soigné. Tandis que l'école inclusive, on n'est pas du tout axé sur l'enfant. Elle est axée sur l'école. C'est l'école qui s'adapte à toutes les difficultés possibles et imaginables qu'elle rencontre. Et donc, n'importe qui peut venir s'inscrire dans une école inclusive, dans une classe inclusive, il ne sera pas stigmatisé, mais il trouvera tous les outils qu'il a besoin ou qu'elle a besoin pour arriver à apprendre.
Et justement, il existe donc des dossiers d'accompagnement de l'élève et un projet d'aménagement dans l'enseignement. Quels sont les avantages?
Le DAC, le dossier d'accompagnement de l'élève, ne concernera que... Bon, tous les enfants en ont un, hein, mais en fait, il n'y aura que les coordonnées des parents dedans, etc., sauf pour les enfants à besoins spécifiques. Et donc, même pas, hein, les enfants qui ont des difficultés passagères. Donc, j'ai un élève dans ma classe, je me rends compte que ça ne va pas du tout, La division écrite, il ne sait pas la faire. Il ne sait pas faire la division écrite. Et donc, je vais mettre dans le DAC, ne sait pas faire division écrite. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'aider? Et une fois qu'il saura faire sa division écrite, ce sera résolu, ce sera terminé. Donc, on peut suivre la progression des apprentissages d'un enfant. Alors, ça peut être évidemment toute une matière. Hein. Un enfant qui a des difficultés en français, eh bien, ça risque d'être beaucoup plus long. Hein, et donc ce dossier d'accompagnement sera... L'avantage, c'est que tous les enseignants y auront accès, le PMS y aura accès aussi, et les parents. Et donc les parents pourront suivre exactement ce qui est mis en place pour leur enfant. Avant, il y avait le PIA, le projet individuel d'apprentissage, qui est obligatoire dans l'enseignement spécialisé, recommandé dans l'ordinaire, mais en fait, dans le spécialisé, on oubliait souvent de le remplir. Hein, et quand c'était rempli, on ne le présentait jamais aux parents, ou très peu. Alors que maintenant, le dossier d'accompagnement de l'élève, eh bien, il y a une obligation de le présenter aux parents au moins 2 fois par an. Donc, c'est un avantage, parce que souvent, les parents sont un peu perdus. Hein, quand vous recevez le bulletin de votre enfant, et qui est marqué 10 sur 20 en mathématiques, ou 5 sur 10, ouais, peu importe. Ça veut dire quoi? Où sont les problèmes? Où sont les difficultés? Comment est-ce que moi, parent, je peux savoir les difficultés de mon fils ou de ma fille quand je vois qu'il a 5 sur 10 ou 10 sur 20? Qu'il a 50%? Où sont les difficultés? Avec le DAC, je le saurai. Et donc là, je pourrais retourner devant l'école en disant, bon, et les copains, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que c'est bien, il avait 50%, maintenant il en a peut-être 55, donc il y a progrès, mais ce n'est pas encore suffisant. Qu'est-ce que vous allez mettre en place?
Et quelles sont les bonnes pratiques pour favoriser l'inclusion des élèves ayant des besoins spécifiques dans les classes ordinaires?
Les rendre inclusives. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand j'ai commencé ma carrière, on ne parlait pas d'inclusion ni d'intégration, on ne parlait pas de besoins spécifiques non plus. Donc moi, j'ai commencé à donner cours, comme dans toutes les classes, hein, à donner cours en faisant des examens, des bêtises comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit, j'arrête ce bazar. Et donc, je ne veux plus mettre des gosses en échec, et donc je dois mettre autre chose. Et mettre autre chose, c'est-à-dire, je mets une pédagogie active en classe, hein, et cette pédagogie active, eh bien... Non seulement je vais l'habiller, hein, déjà d'abord je prends une pédagogie validée, quelque chose qui était scientifiquement validé, donc on voit que c'est une pédagogie qui existe et qui fonctionne, mais en plus je vais l'habiller pour que chaque élève soit bien à sa place dans la classe, qu'il n'y ait pas un gosse malheureux, quoi, qu'il n'y ait pas un gosse qui rame, qu'il n'y ait pas un gosse qui se décourage et qui n'a plus confiance en lui en disant « de toute façon j'y arriverai jamais ». Ça, quand on entend ça et qu'on est prof, ben, c'est pas possible. Moi, j'ai entendu ça au début de ma carrière. Hein. Je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable. Mais enfin, si tu es capable. En plus, les points, ça ne veut rien dire. Hein. Quand on donne cours, on fait des exercices. En général, on voit que les gosses ont compris. Et le lendemain, on fait une interrogation. Et l'interrogation, il y en a qui la ratent. Ils la ratent pas parce qu'ils n'ont pas compris. Il la rate parce que c'est le stress, une interrogation, un examen, c'est stressant pour des gosses. Donc, on travaille autrement. On fait des évaluations formatives, on ne met plus des points. Ouais, on voit si l'élève a compris, s'il n'a pas compris, ce n'est pas grave. On recommencera, on mettra du tutorat, on viendra, on recommencera le cours s'il faut. Mais le fait de ne plus faire d'examen, déjà... Supprimer les examens, ça permet de gagner un temps fou pour faire de la remédiation. En primaire, on estime que ça peut aller jusqu'à 40% du temps qui est perdu en évaluation, interrogation, examen, tout ça. Et en secondaire, 60% du temps. Si on peut supprimer, si on peut transformer ces 40 et ces 60% en remédiation, en apprentissage, en tutorat, en tout ce qu'il faut pour... permettre à tous les élèves d'acquérir le savoir, quelle que soit la difficulté spécifique d'apprentissage, et même quelle que soit leur situation de handicap, eh bien, je suis certain que les enfants vont évoluer beaucoup mieux. Et notre système scolaire va progresser, hein, parce que ce n'est pas le meilleur système scolaire au monde, hein, qu'on a. Hein, quand on voit les résultats PISA, on se dit, oulala, on est l'avant-dernier avec la France, on essaie de... hein, ça sert à celui qui sera le dernier, quoi. Donc il faut vraiment tout changer.
Et ça évite aussi un certain esprit de compétition finalement, ce qui permet quand même aux élèves qui se retrouvent plus en difficulté de ne pas se retrouver en compétition alors qu'ils ont moins de... Ils ont des outils manquants finalement, donc on ne part pas sur un pied d'égalité.
Oui, tout à fait. Moi, j'avais une pédagogie coopérative. Coopérer, c'est pas être en compétition. Si on met des points, on ne coopère plus. Hein, t'as tout de suite celui qui va dire « Ah, t'as vu, j'ai 9 sur 10 ». Et lui, il regarde sa feuille, il a que 6 sur 10, il dit « Oui, 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 je suis con, je suis bête, je ne serai jamais aussi intelligent que lui ». Donc on se décourage, même en étant en situation de réussite, 6 sur 10, logiquement, c'est une situation de réussite, mais rien que le fait de voir que tous les autres de la classe ont plus, on se dit « Ben voilà, je suis le plus bête de la classe, quoi ». Donc on arrête tout ça, quoi.
D'accord. Merci à toi. Et quels sont les points positifs et les inconvénients au niveau de l'enseignement spécialisé ? Je me souviens, pour t'avoir déjà entendu parler, que tu parles souvent quand même de passeport pour la pauvreté. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Mais là, il y a très très peu d'élèves dans le spécialisé qui sont à leur place. Hein, il y a 8 types d'enseignement dans l'enseignement spécialisé. Et je veux dire, il y a le type 5, l'école à l'hôpital, le type... Oui, ça, il y a des enfants qui sont hospitalisés pendant de très longues périodes, donc ils ont l'école à l'hôpital. Il y a le type 4 pour les problèmes de mobilité. Et puis il y a les types 6 ou 7 qui sont pour les enfants malentendants ou malvoyants. Alors il y a un sens à ce qu'un enfant malentendant aille fasse un stage à l'enseignement spécialisé. Il est malentendant, donc il doit apprendre à lire sur les lèvres, il doit apprendre la langue des signes. L'enfant malvoyant, lui, doit apprendre le braille. Donc il faut peut-être qu'il fasse quelques heures par semaine dans le spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'il doit être dans le spécialisé. Ça veut dire qu'il doit être dans l'ordinaire, ou que de temps en temps, il y a un enseignant du spécialisé qui vienne une heure par jour pour lui apprendre à lire le braille. Ce sont des types d'enseignement dans le spécialisé qui ont du sens. Il y a sinon le type 8, où on a un type pour tout, c'est-à-dire toutes les difficultés spécifiques d'apprentissage. Alors, en principe, ce serait les grosses dyscalculies, les grosses dysphasies, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Les enfants du milieu populaire. Hein, alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a que 8% des élèves qui sortent du type 8 qui ont leur CEB. Autrement dit, on sait qu'il y a à peu près 60% de ceux qui n'ont pas le CEB et qui vont retourner dans l'ordinaire. En première et deuxième différenciée, en espérant avoir le CEB, qu'ils n'auront pas. Et après, c'est direction professionnelle, hein, l'enseignement professionnel. Les 35% qui restent, eux, restent dans le spécialisé, mais en secondaire, et c'est un secondaire professionnalisant. Seulement, le diplôme de l'enseignement spécialisé n'a pas la même valeur pour les employeurs que le diplôme de l'enseignement ordinaire. Donc, on va engager une personne qui sort du spécialisé en le payant moins cher. Et comme on dit à Liège, ce sera le mandaï des mandaïs. Et donc, c'est lui qui va balayer, c'est lui qui va ramasser les crasses, etc. Donc, c'est... Et alors... On sait que, c'est l'ONU qui nous l'a rappelé, ce sont surtout des enfants de milieux populaires, des familles précarisées, des familles pauvres, et on sait qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. L'école ne fait pas grand-chose pour sauter une génération. Au contraire, on les maintient bien dans la pauvreté.
D'accord. Merci Jean-Pierre. On revient après 6e sens de Grand Corps Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Toujours sur Radio Panique pour notre émission « À l'écoute de la différence », l'enseignement spécialisé pour l'inclusion et l'épanouissement. Jean-Pierre, en quoi l'enseignement spécialisé est-il en accord ou en désaccord avec les droits des enfants ?
Alors, il est en désaccord avec les droits des enfants. Tout simplement, ce n'est pas la Convention internationale des droits de l'enfant qui le dit, mais c'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et donc, tout enfant en situation de handicap a droit à l'enseignement inclusif, primaire et secondaire. Donc, l'inclusion, elle est définie par l'UNESCO. L'inclusion, ce n'est pas deux systèmes scolaires ségrégés, enfin, c'est différent. C'est un seul et même système scolaire, primaire et, ordinaire et spécialisé en même temps. Et donc, c'est le droit fondamental, tout simplement, et c'est valable. D'ailleurs, la Constitution belge a intégré dans son article 22 ter le fait que toute personne, et là on ne parle pas que des enfants, mais que toute personne en situation de handicap, maintenant c'est l'expression, on ne dit plus handicapé, on dit en situation de handicap, a droit à l'inclusion et aux aménagements raisonnables. C'est dans la Constitution. Donc le droit international l'impose, la Constitution belge l'impose aussi.
D'accord, merci. Pour toi, comment est-ce qu'on pourrait garantir un environnement d'apprentissage inclusif et respectueux du droit des enfants ?
Alors, c'est pas gagné, hein, parce que là, je vais remonter à la formation initiale des enseignants, qui n'est pas, enfin, elle va augmenter à partir de cette année-ci, elle passe à 4 ans. Mais il n'y aura certainement pas pendant ces 4 années de formation en orthopédagogie. Et l'orthopédagogie, c'est la science, justement, de l'apprentissage. Comment donner cours à la différence? Comment donner cours aux personnes en situation de handicap? C'est ça, l'orthopédagogie. C'est comprendre les difficultés des enfants. C'est comprendre ce que, pour une personne handicapée, ce handicap représente. Et c'est ça aussi, savoir que mettre en place pour l'aider à progresser et être bien dans une classe et une école inclusive. Ça, c'est... Et donc, le système scolaire, la formation initiale des enseignants n'est pas du tout prévue pour que l'école devienne inclusive. Ah, il y aura peut-être, oui, je pense qu'ils ont 15 heures de formation dans les écoles normales.
Hein, sur une année.
Sur 3 ans.
Sur 3 ans, d'accord.
Sur 3 ans. Et alors, il existe toujours l'année d'orthopédagogie complémentaire avec quatre écoles. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait encore quatre écoles dans la communauté française qui le donnent, qui donnent la formation en orthopédagogie. C'est un an bénévole, donc on est formé instituteur, institutrice. On se dit qu'on resterait bien un an de plus pour pouvoir aider tous les enfants, et donc on suit une année d'orthopédagogie. Eh bien, ce n'est pas validé financièrement. C'est-à-dire qu'on fait, à la place de passer à. D'avoir fait trois ans d'études, on en fait quatre. Eh bien, on touche le même salaire que si on en a fait trois. Donc, ça n'incite pas vraiment les jeunes à se former. Donc, il y a tout à recommencer. En plus, les hautes écoles, hein, moi j'appelais ça l'école normale avant, n'appliquent pas une pédagogie active. Ils font encore des évaluations, ils font encore des examens, des sessions d'examen, etc. On met encore les jeunes en compétition. Je ne sais pas combien il y a d'enseignants qui s'inscrivent en première année, mais il y en a très peu qui sortent. Pendant les trois ans, il y a élimination. Et ce sont les examens qui font ça. Comment est-ce qu'on veut que des enseignants qui sont passés par ces trois années d'école normale arrivent un jour dans une classe et disent « Ah, moi je vais faire de la pédagogie active ». Ils n'en ont jamais fait de leur vie, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ont peut-être été visités. Moi, quand j'étais à l'école normale, j'étais visité une école Freinet. Ça a duré 4 heures un matin. Hein, et puis terminé, plus fini. Fini, on n'a plus parlé de Freinet. Et donc, je pense que ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé. On va me dire, oui, si on la forme à la pédagogie active. Ah oui, mais non, on forme à la pédagogie active en la pratiquant. Et les hautes écoles ne pratiquent pas la pédagogie active. Donc, on ne forme pas des enseignants. On forme des profs.
T'entendant parler depuis le début, on se dit qu'il y a quand même encore énormément de travail sur quand même de nombreux points. Et justement, quels sont ces enjeux par rapport à une inclusion totale dans l'éducation, les enjeux et les perspectives d'y arriver, en fait?
Les enjeux, c'est d'abord le droit fondamental, ce respect. Une école est un lieu de droit. Et pour l'instant, nos écoles ne sont pas des lieux de droit. Donc, respecter le droit. Donc mais ça, c'est une politique. Hein. On crée un pacte pour un enseignement d'excellence qu'on met au point. Nulle part, il est prévu de fusionner spécialisé et ordinaire. Nulle part. C'est ça les enjeux. Les enjeux sont là. Les enjeux, c'est pour... Les écoles, c'est pas un droit des adultes, hein, l'école. C'est un droit de l'enfant. Hein, et donc l'enfant, dans l'école, il n'a rien à dire, en général. Sauf dans les écoles à pédagogie active. Mais sinon, il n'a rien à dire, donc il ne peut pas se plaindre, donc, et les parents encore moins. Donc, les enjeux, c'est créer des écoles pour tous, tout simplement. Des écoles pour tous, ce qu'elles devraient être depuis la nuit des temps. Elles l'ont été, hein, tout au début, mais enfin, il n'y a qu'une partie de la population, les riches, les enfants de riches, ou dans les abbayes qu'on pouvait suivre des cours. Mais il fut une époque où il n'y avait pas de points. Et donc, on pouvait rester à l'école le temps d'avoir appris, d'avoir compris ce qu'on nous apprenait à l'époque. Et donc, on devrait retourner à ça. Seulement, le tronc commun, moi, je pense que c'est une bonne chose s'il est bien appliqué. Et donc, s'il est inclusif et si, justement, il avance au rythme de tous les élèves.
Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Je te remercie d'y avoir participé.
Avec plaisir.
Et si tu veux obtenir des infos supplémentaires, tape sur ton clavier www.inforjeune.eu. Et si tu veux faire partie de notre équipe de jeunes radioactifs et participer à une de nos émissions, alors contacte-nous au 02 421 71 30. On se donne rendez-vous le 25 octobre pour de nouvelles aventures. À bientôt.